Tribunal.
L'audience est ouverte.
Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans l'émission L'audience est ouverte. Et l'audience est ouverte, Philippe Armouche.
Bonjour.
Bonjour, qu'est-ce qu'on dit après, l'audience est ouverte?
Vous pouvez vous asseoir.
Eh bien, vous avez le droit d'écouter la radio en étant assis, c'est une excellente nouvelle. L'audience est ouverte, c'est l'émission mensuelle de Radio Rentiel qui vous permet d'en apprendre davantage sur la justice. La dernière émission est absolument passionnante sur les escroqueries, sur la procédure d'escroquerie. Alors aujourd'hui, on va franchement marcher pendant une demi-heure sur la ligne de crête en essayant de ne pas se casser la figure, Philippe, puisque nous allons évoquer l'évolution de la notion de consentement. Et là, il y a peut-être des gens qui vont nous attendre au tournant, donc on va être...
C'est logique, hein. C'est logique,
bah oui.
C'est une notion qui pose problème, qui fait polémique, et je pense que c'est à l'honneur de cette radio de pouvoir en parler librement et de pouvoir laisser le champ ouvert à chacun de réfléchir sur cette
question.
Voilà.
Et dans la sérénité, parce que c'est peut-être ça le manque de sérénité qui fait qu'aujourd'hui...
Je pense. De toute façon, ce sont des situations toujours très violentes. Ouais. Bon. Alors, il faut d'abord commencer par une sorte d'avant-propos. Il faut être très humble et avoir infiniment de respect et de compassion pour celles et ceux qui vivent des situations dans lesquelles la notion de consentement pose problème, oui, ou est requise.
Alors, que ce soit bien clair, on parle bien de sexualité, là. Hein.
On parle de sexualité et on parle du consentement ou du non-consentement de la victime.
De la victime.
Bon. Pourquoi choisir ce sujet? Parce que, on en a parlé ensemble, parce que dans l'évolution et la présentation de ce système judiciaire, on a pris un ton volontairement léger pour parler de choses graves. Et là, on ne va pas forcément changer de ton, mais on sait que ce sont des sujets extrêmement sensibles et surtout qui sont en évolution constante. On n'aurait pas évoqué ce sujet il y a quelques années parce que la question ne se posait pas. Et donc, si on est dans la réflexion sur les crimes à caractère sexuel ou les infractions à caractère sexuel, on pose la question du consentement. Je vais donner une image. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais je l'ai en tête. Nous sommes sur un mouvement de balancier. Si on fait le mouvement soi-même, on met son bras pour représenter un balancier. D'un côté, on avait le balancier qui était à rien.
Rien, c'est-à-dire ?
Rien, c'est-à-dire une jeune femme arrivait dans un commissariat et disait « j'ai été agressée, j'ai été violée » et il y a une époque pas si lointaine où il y avait quelqu'un qui lui disait « c'est normal, vous avez vu comment vous êtes habillée ».
D'accord. Pas si lointaine, ça veut dire quoi? Les années...
Non. On est dans l'ordre de plusieurs décennies.
Plusieurs décennies.
On est dans l'ordre de plusieurs décennies. Je ne peux pas dater précisément,
oui,
mais si vous voulez, dans les années... Je dirais que dans les années... alors, c'est difficile, mais peut-être 70, les choses ont commencé à évoluer, et elles ont évolué très fortement après 68.
Oui, après le mouvement de libération de la femme, finalement.
Après, absolument. Après, que la parole des femmes soit entendue. Bien. Donc avant, pardon pour la caricature, hein, mais avant, on avait quand même beaucoup, beaucoup de procédures qui n'existaient pas, parce que la victime venait et elle n'était pas crue. Tout simplement, elle n'était pas crue et toute la machine judiciaire faisait en sorte qu'on n'avait pas intérêt à la croire.
C'est-à-dire que même si elle portait plainte, l'affaire arrivait devant la justice...
Alors parfois la plainte n'arrivait même pas dans le bureau du procureur parce que disait la victime en disant oui mais par hasard est-ce que c'est pas vous qui l'avez allumé et puis quelle preuve rapportez-vous, surtout quelle preuve rapportez-vous, on était sur la capacité, sur la qualité de la preuve et ça a évolué, on en parlera à travers les expertises.
Là effectivement on est quand même dans le domaine de la toute puissance masculine d'une certaine manière.
Complètement. Oui. Et d'ailleurs, il y avait très peu de personnel féminin dans les commissariats. Et les associations d'aide aux victimes et la personne qui était chargée de recueillir les plaintes des femmes, notamment, ou les personnes victimes d'agressions sexuelles au commissariat, est aujourd'hui un spécialiste. en gendarmerie aussi, c'était pas le cas, hein, c'était pas le cas du tout auparavant.
Ouais.
Et le mouvement de balancier, donc on est passé de rien à tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne vient et dit « Mon Dieu, un tel m'a mis la main aux fesses » ou « je prends volontairement des faits qui ne sont pas aussi graves que les faits de viol,
ouais,
mais qui sont tout à fait sanctionnables et lamentables. » Mais sanctionnables, hein, restons dans la justice. Eh bien, on m'a mis la main aux fesses, ou on m'a sifflé dans la rue, ou on a eu, etc. Et le propos est tenu pour vrai, a priori.
Oui.
Je ne suis pas en train de dire que ça n'est pas vrai. Je suis en train de dire qu'on est passé d'une époque à une autre.
Oui, parce que siffler dans la rue, quand j'étais gamin, on sifflait les filles dans la rue.
Eh bien, monsieur, c'est pas possible.
C'est pas possible.
C'est pas possible. Et c'est bien, et c'est normal. Et moi, je trouve que c'est normal. Pourquoi on aurait sifflé les filles dans la rue? Bon, en tout cas, c'est un problème social, sociologique, etc. C'est pas... Il y en a marre, quoi, demander à toutes nos compagnes, nos filles, nos mères, etc. Ça va, quoi, se faire siffler par des... Bon. Mais en même temps, siffler, c'est pas gracieux. Au-delà, c'est quand même une agression sexuelle.
Bien sûr, bien sûr.
Bon. Eh bien, avant même qu'on sache la vraisemblance de cette agression, on va mettre en marche la machine judiciaire, en même temps. Et la machine judiciaire, ça peut être très vite une machine à broyer. Je vais essayer de faire court une petite anecdote, hein, de mes clients et amis. A été reconnu comme étant l'agresseur possible d'une jeune femme dans le RER. Les policiers viennent le chercher à son travail et lui disent « Monsieur, vous avez agressé cette femme dans le RER. » C'est pas du tout son genre et ça n'est pas vrai. Mais il correspond à la description que fait la victime qui a entreaperçu son agresseur. La victime, fort heureusement, il est confronté, donc il est gardé à vue dans les locaux du commissariat, à Nanterre, c'est pas le pied. Hein. Il comprend pas ce qui passe, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Fort heureusement, la victime, lors d'une identification derrière une vitre sans teint, dit « Ah non, il lui ressemble, mais je ne suis pas sûr à 100% que ce soit lui ». On le libère, fort heureusement, ça n'est pas lui, et quelque temps après, on retrouve le bon agresseur. Mais la description qui en était faite, allez hop, c'est une garde à vue.
Ouais.
Et c'est une. Et si cette personne s'était trompée derrière une reconnaissance, une vitre sans teint, avec l'émotion, etc. En êtes-vous sûr, lui aurait dit le policier. Ben oui, aurait dit la dame, j'en suis sûr, vous voyez.
Il faut des garde-fous, alors.
Ben, alors, il faut faire confiance à la justice. On ne sait pas sur une simple reconnaissance qu'on va mettre quelqu'un en prison. Mais vous voyez les dégâts, ouais, quand même. Les dégâts, quand il n'y avait rien, étaient colossaux. Et les dégâts, quand c'est pas vrai, c'est... De toute façon, c'est simple. Si c'est vrai, c'est une catastrophe. Si c'est pas vrai, c'est une catastrophe. Ouais. Voilà. Voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas l'évolution de la notion de consentement? C'est très, très intéressant. Avant de commencer cette émission, vous me parliez plus ou moins de l'évolution. Selon les époques, évidemment, on ne voit pas les choses de la même manière.
Oui, bien sûr. Le consentement des individus n'existait pas autrefois. C'était le consentement familial. Hein. C'était la famille qui devait consentir. C'est au fur et à mesure où la notion d'individu est devenue de plus en plus prégnante, au détriment de la notion de collectivité, c'est la montée de l'individualisme, on va dire, où le consentement individuel a eu de plus en plus d'importance. Et aujourd'hui, si vous voulez, on considère que dans les années 60, il y a eu une forme de révolution du consentement qui faisait disparaître le modèle matrimonial qui était ancien.
Oui.
C'est-à-dire que, pour la première fois, le mariage cessait d'être une obligation sociale. Se marier, pas se marier, c'était peu importe. Un acte sexuel socialement admis, c'est désormais un acte consenti, y compris quand il a pour cadre ni pour horizon le mariage. Donc l'acte sexuel était dissocié du mariage. Mais pour autant, on est bien d'accord, il s'agit d'un acte sexuel socialement admis, et j'ajoute juridiquement consenti.
Tout à fait.
Voilà. Donc c'est pas parce que, si vous voulez, au fil du temps, ça a changé et on a une montée de l'individu, que le consentement n'est pas fort. Il est resté très fort. Il appartient toujours à la personne de dire
oui,
non,
ou non.
Oui ou non. Sachant que certaines catégories de personnes, même si elles disent oui, ne sont pas consentantes. Ce sont notamment les mineurs en dessous de 15 ans. Il y a une présomption de non-consentement.
Alors on peut parler justement, s'arrêter un petit peu juste sur ce mineur, majeur, donc à 14 ans, c'est pas possible, à 15 ans, c'est possible.
Alors, après 15 ans, on va s'interroger sur la validité du consentement. Hein, ça veut pas dire que c'est d'accord, ça veut dire qu'une une jeune femme, prenons cet exemple, qui viendrait se plaindre d'une agression à l'âge de 14 ans, on ne se poserait pas la question de son consentement, quand bien même elle serait d'accord. Elle est présumée de ne pas être d'accord. Ça protège le mineur jusqu'à 15 ans. Au-delà, on s'interroge sur la validité du consentement. D'ailleurs, à partir de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 25 ans, 35 ans, quand est-ce qu'on dit oui ? Comment est-ce ? D'ailleurs, c'est des campagnes très nombreuses. Oui, c'est oui. Et non, c'est non. Voilà. Quelle est la nature du consentement ? Je pense par exemple aux soirées alcoolisées, les fins de soirée alcoolisées, plus personne n'a vraiment complètement sa conscience. Est-ce qu'on est d'accord à ce moment-là pour avoir une relation sexuelle ? La validité du consentement, c'est ce sur quoi doivent se pencher les tribunaux à ce moment-là. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs.
Alors, ce sont des choses qui font consensus maintenant, mais qui ne faisaient pas consensus il y a 30-40 ans, comme
non.
vous l'avez dit tout
non,
à l'heure.
Non. C'est aujourd'hui, la victime est enfin entendue. Et enfin, écouter. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une présomption d'innocence. Et c'est là où c'est très compliqué. Comment concilier le droit des victimes et la présomption d'innocence ? Notamment avec la médiatisation.
Et les réseaux sociaux.
Quelqu'un peut être cloué au pilori parce que, pour peu que ce soit une personne un peu connue, parce que telle ou telle personne prétend ou avoir eu des relations non consenties. Il en va de la réputation, il en va de... Bon. Et en même temps, le droit des victimes s'impose. Heureusement qu'on a ça. Donc c'est compliqué. La tâche du juge est compliquée en ce moment sur ces dossiers-là. Et la tâche d'ailleurs de tous les intervenants du système judiciaire est compliquée.
On peut dire qu'il y a une pression aujourd'hui exercée par la société civile via les réseaux sociaux sur la justice, sur les juges.
Bon, les juges ne sont pas sensibles à la pression. Hein. Enfin, on peut reprocher des choses aux juges. Mais non, franchement... Bon, et ce sont des êtres humains. Des êtres humains. Mais ce n'est pas ce qui ressort, si vous voulez. Ce qui ressort, c'est que c'est compliqué. C'est compliqué, donc ça demande d'investigation, d'où l'expertise.
Oui.
On va beaucoup, beaucoup se fier aux experts aujourd'hui, et de façon plus sérieuse qu'il y a quelques années. Vous vous souvenez d'Outreau, le procès d'Outreau ? Eh bien, le fameux procès d'Outreau, pourquoi tous ces gens sont allés en prison ? Tout simplement parce que l'expert a dit « Oh, mais la parole de l'enfant est crédible ». Qu'est-ce que ça veut dire ? À partir du moment où c'est crédible, il faut le croire. Donc s'il faut le croire, c'est qu'il dit vrai. Ben oui, mais dans l'affaire d'Outreau, on sait que c'est pas vrai. Et donc...
Ça, c'est un problème de société aussi. On met l'enfant au centre.
On a crédibilisé la parole de l'enfant à travers...
Alors, Sacralisé, peut-être même.
Aujourd'hui, les expertises ont fait beaucoup plus attention. Moi, j'ai souvenir d'une experte, quand j'ai commencé à travailler, qui, de toute façon, quand elle avait un enfant, disait « L'enfant ne ment pas, ne vend jamais ». Ben, tant mieux, mais bon...
Elle n'a pas vu le risque du métier, peut-être.
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'elle avait vu dire. Ouais. Elle n'est plus experte maintenant. Mais c'était quand même impressionnant. Hein. Elle arrivait à la barre, on disait « Ah, oulala, ça y est, c'est cuit ». Alors, ça devenait grotesque, parce que le tribunal lui-même se disait « Ah ben, si c'est madame une telle l'expert, on va toujours aller dans le même sens ». C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Il ne faut pas ni rejeter, ni accepter comme ça. Donc, il y a un très gros travail qui est fait en amont, sur l'expertise, sur les conséquences, le contexte. Mais il y a très souvent une part de doute qui reste.
Ouais. Et comment dire le jugement, aujourd'hui, par exemple, un viol, c'est combien d'années de prison ?
C'est criminel.
Un abus sexuel, en règle générale.
Alors, un viol, c'est criminel, donc c'est la cour d'assises. Donc les peines encourues sont de l'ordre de plusieurs décennies. Hein. Une agression sexuelle, c'est le tribunal correctionnel. On peut aussi avoir des peines qui se comptent en nombreuses années de prison. On va dire que pendant un moment, on a eu une tendance à correctionnaliser les dossiers, c'est-à-dire que c'est une technique judiciaire. Le viol est défini par la loi comme étant un acte de pénétration. Et à partir du moment où l'acte de pénétration n'était pas avéré, avoué, reconnu, on demandait à la victime si elle était d'accord pour correctionnaliser le dossier, c'est-à-dire requalifier en agression sexuelle. Alors on peut trouver ça choquant, mais il faut bien savoir que dans une cour d'assises, si une personne n'est pas sûre de sa culpabilité, elle doit être innocentée. C'est tout ou rien. Alors que dans un dossier correctionnel, les juges ont l'habitude, et même l'habitude du déni de la part de l'auteur. Donc savent lire un peu au travers des lignes. pour faire plus court, un juré d'assises peut être plus influençable que ne le sont des magistrats professionnels. Oui. Bon, c'est de la cuisine interne, mais c'est très important. C'est important surtout de l'expliquer aux victimes qu'un dossier grave peut se retrouver dans une juridiction où les peines encourues sont moins lourdes. Mais l'essentiel n'est-il pas qu'il y ait une peine quand même symbolique? J'avoue que ça nous fait beaucoup réfléchir. Enfin, quand on travaille sur des dossiers, que ce soit en auteur ou en victime, on doit avoir ce genre de réflexion dans la tête.
Pour preuve que les choses sont compliquées, est-ce que vous pouvez nous parler de... me conter une anecdote, un voyage en train que vous avez commencé dans le milieu de la France. Et est-ce qu'on peut dire deux mots de ça? Parce que c'est aussi dans l'air du temps.
Oui, j'en dis deux mots, simplement. Et je ne voudrais surtout pas qu'on en tire des conclusions générales. Mais
on est toujours sur la ligne de crête.
Voilà, on est sur la ligne de crête. Deux jeunes filles montent dans le train à Avignon. L'une d'entre elles a eu, visiblement... Je suis dans le siège devant elle, donc j'entends tout ce qu'elle dit. Elle parle fort, en plus. Et l'une d'entre elles a eu visiblement des relations sexuelles la veille avec son petit ami. Et à Valence, dans le ton de cette jeune fille, je me rends compte qu'en fait, elle a eu des relations sexuelles, mais que ça ne lui a pas plu. Elle pensait que le garçon était amoureux d'elle, et en fait, il ne l'était pas. Il voulait simplement avoir une relation avec elle. Donc elle est très déçue. Et sa copine lui dit « Ah oui, t'es déçue, c'est tous des connards. Enfin, voilà, c'est salaud, il a abusé de toi. » À Lyon, il avait abusé d'elle. Et à Dijon, elles étaient convaincues l'une et l'autre qu'il fallait qu'elle dépose plainte pour viol.
Ouais.
Et ce que je crains, c'est que ce garçon, qui ne doit pas être plus finaud qu'un autre, eh bien, quand les policiers vont lui dire « Est-ce que vous avez eu une relation sexuelle avec mademoiselle une telle ?» Comme il ne doit pas être forcément fin, ben, il va dire non. Et puis, comme on va trouver de l'ADN dans les sous-vêtements de la jeune fille, eh bien, on va dire « Comment expliquez-vous qu'il y ait de l'ADN ? Et vas-y, mon garçon. » Alors,
après,
je ne sais pas ce qu'est devenue cette affaire. Ouais. Ça n'est qu'une anecdote que je raconte qui n'a aucune valeur universelle. Mais vous voyez, X années encore après, ça m'a fait beaucoup réfléchir.
Pour autant, les tribunaux sont avisés, savent quand même reconnaître
ce qui
est le domaine de la fabulation.
Mais bien sûr. Il faut faire confiance. Mais ça fait peur. Ça peut faire peur.
Oui.
Ça peut faire peur.
On va écouter un peu de musique avant d'évoquer un procès assez extraordinaire. Parce que tout simplement, le prévenu, si j'ose dire, était un homme extraordinaire et que ça nous ramène à des temps. On n'aurait pas envie de revivre. On écoute la musique, c'est une superbe chanson de Pierre Perret, Mon petit loup. Je me souviens, quand j'étais petit, j'écoutais cette chanson, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait, mais elle me donnait envie de pleurer.
Oui, eh bien, c'est le but et c'est beau.
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux, respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazone et la vallée des orchidées et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant ce ganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé, ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. T'apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit au lamparo, et je t'emmènerai faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro. Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fasciné au Prado par les Goya ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Connais-tu en quadriphonie le dernier tube de Malherbe. Et les planteurs de Virginie qui ne savent pas qu'il y a un hiver. On en a des choses à voir jusqu'à la Louisiane en fait, où il y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. T'en fais pas mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, je t'en supplie mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, tu oublieras mon petit loup, ne pleure pas.
Magnifique chanson de Pierre Perret, Mon petit loup. Qu'on ne se lasse pas d'écouter. Il faut l'écouter, tiens, cette chanson, hein, pour comprendre les dégâts que peuvent occasionner les abus sexuels et autres viols. On va évoquer un procès, Philippe, tout à fait hors norme. C'est celui d'Oscar Wilde, immense écrivain anglais.
Oui.
En 1895, rendez-vous compte, chers auditeurs et auditrices, de l'audience est ouverte. Oscar Wilde était condamné aux travaux forcés pour...
homosexualité.
Quelle époque.
Et oui, mais c'est ce procès d'ailleurs a été assez emblématique parce que décrié, hein, une partie de la classe des intellectuels a pris parti pour Oscar Wilde, ou en tout cas pour que ne soit plus pénalisée l'homosexualité. On est encore dans une Angleterre victorienne, hein, c'est le puritarisme. Et c'est une législation qui est très dure à l'égard des mœurs déviantes. Mais, donc c'est des châtiments très, très durs, hein, qui sont très sévères. Le maximum, c'est 2 ans de travaux forcés, quand même. 2 ans de travaux forcés. Et donc, en fait, Oscar Wilde, à l'époque, est déjà un écrivain très, très connu. Et il est celui qui, dans les soirées mondaines, est un peu... l'élégant, l'arbitre, voilà. Il a écrit le portrait de Dorian Gray, et il est, en quelque sorte, le chef de file de l'esthétisme à cette époque. Et il faut lui reconnaître qu'il est dans l'ambiguïté, la bizarrerie, comme dans tous ces milieux, enfin, comme dans tous ces milieux, non, comme dans certains milieux à cette époque, et il cultive ça, ça fait partie du personnage. Il est marié, il est père de 2 enfants, donc il a un paravent, et en fait, il a des divertissements tout à fait troubles pour l'époque. Je cite, « C'est le monde de l'amour qui n'ose pas dire son nom. » Et alors, il a des relations éphémères avec des jeunes éphèbes, des valets, des commis de magasins. Et donc, il rencontre à un moment donné un jeune lord, et c'est parce que c'est un jeune lord, en fait, en 1891, que cette affaire éclate. Le père du jeune lord en question est réputé dans son groupe social, dans sa gentry, pour sa grossièreté de ses mœurs, la vulgarité de son langage et la brutalité de son comportement. Donc on voit déjà que le père de l'amant de Oscar Wilde n'est pas un personnage forcément très, très au fait et très d'accord avec ça. Lorsqu'il apprend qu'en fait son fils cadet entretient, donc je vous rappelle, c'est un lord, hein, quand même.
Un lord, c'est-à-dire c'est un aristocrate.
C'est un aristocrate, et on est en 1895 quand même, donc ça signifie encore quelque chose. C'est un poids social.
Meghan n'est pas encore née, voilà.
Meghan n'est pas encore née. Ça fait 3-4 sénateurs et 4-5 députés de chez nous, quoi. C'est du lourd. Lorsqu'il apprend que son fils entretient une relation avec Oscar Wilde, il cherche la rupture et il diffame publiquement Oscar Wilde. Et il envoie même une lettre au club d'Oscar Wilde, qui, je vous rappelle, est un personnage connu et respecté. Hein, la lettre, il y a une dédicace dessus, c'est « To Oscar Wilde, posing as a sodomite ». Voilà, à Oscar Wilde, posant comme sodomite. C'est une injure qui est grave, mais le jeune lord veut se venger de son père, et il demande à Oscar Wilde d'intenter un procès en diffamation. Et donc la cour de Londres est saisie d'un procès en diffamation d'Oscar Wilde contre le père de son amant, ce lord. L'avocat adverse est redoutable et il entraîne peu à peu Oscar Wilde sur le terrain de sa vie privée. Et bien sûr, c'est surtout pas là où il fallait aller. Il produit des témoins, des valets de chambre, des palefreniers avec lesquels Oscar Wilde a eu des relations. Et donc, il cite même un témoin qui a dilapidé sa fortune en organisant des rencontres chez lui. Enfin bref, il prouve la débauche dans le cadre des relations homosexuelles d'Oscar Wilde. Et Oscar Wilde répond, on peut imaginer quand on connaît un peu le personnage, par des réponses humoristiques. C'est-à-dire, il donne des pics, des saillies.
Il n'y en a pas une ou deux.
Et voilà. Non, j'en ai pas sous le coude. Mais ça ne plaît pas au jury. Et il se retrouve quelques mois plus tard, évidemment, de l'autre côté, en tant qu'accusé, avec un proxénète d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à voir avec lui. Et pendant 3 jours, on développe contre lui 25 chefs d'accusation, avec des témoins à charge, accablants, etc., etc. Donc il est remis, donc le tribunal est complètement perdu au milieu de tout ça, et en fait il est remis en liberté. La famille de Wilde dit « fiche le camp en France, parce que sinon tu vas être condamné », mais il refuse, et il se retrouve pour la troisième fois devant le tribunal, et donc après 2 heures de délibération, le jury le déclare coupable de tous les chefs d'accusation, il est condamné à 2 ans de travaux forcés.
— Il va les accomplir.
— Alors... il est enfermé. Il passe 2 ans d'enfer dans la douleur et l'amertume. Il rédige d'ailleurs une de ses plus belles œuvres, la ballade de la geôle de Reading. Et il est ruiné en 1897. Il a perdu sa réputation. Et il meurt d'une vie misérable en France en 1900.
— Ça veut dire que donc l'homosexualité a eu égard au droit anglais une...
Passible, comme d'ailleurs encore dans un certain nombre de pays pas loin des nôtres, passible de sanctions extrêmement lourdes. Le simple fait d'avoir des amours qui n'osent pas dire leur nom.
D'accord. Voilà. Et qu'en est-il en France ? Enfin, qu'en était-il en France ?
On a Rimbaud. Hein, on a Rimbaud qui se réfugie chez Verlaine. On est en 1871. Et le Rimbaud annonce à Verlaine son intention de rompre, et puis
il se fait tirer dessus.
Il achète un revolver, ouais. Et puis il tire 2 coups, et puis on est quand même dans cette époque-là, toujours pareil, puisque Rimbaud renonce à toute action judiciaire, mais en fait Verlaine est condamné à 2 ans de prison. Alors c'est pour des raisons de sécurité, c'est pas pour l'homosexualité, mais derrière il y a ça, quoi. Et derrière il y a tout ça. Ce sont des périodes dans lesquelles l'homosexualité est chassée et persécutée, d'où une société secrète qui se crée tout ça. Tout le monde le sait, mais personne ne dit rien, quoi. Voilà. Et il faut faire le lien avec certaines sociétés aujourd'hui dans lesquelles nous vivons, en 2021, dans lesquelles, effectivement, on est encore jeté aux fauves.
Jeté au cachot, si.
Jeté au cachot, ouais. Voilà. C'est le Oscar Wilde qui... meurt dans la vie misérable, tout ça parce qu'il a pris avec humour, sans doute au mauvais moment, ouais. Et il a cru que par des traits d'esprit, on pouvait s'en sortir. Et non, c'était pas l'époque.
Hein. La machine s'est refermée sur
lui. Et de façon générale, vaut mieux pas trop faire d'humour dans les tribunaux. Hein.
Excellent conseil, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Philippe, merci à Simon en régie technique. C'est la fin de cette édition de L'Audience est ouverte. On se retrouve bien évidemment le mois prochain. D'ici là, restez fidèles au programme de Radio Rancière, la radio qui, je vous le rappelle, rapproche les hommes.
Merci Christophe, merci Simon. Just don't know why. But you know, honey, I'll always be right. If you ever want me, come on and cry, baby. Oh, honey, welcome back.
chair.